Bon mardi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré tout ce qu'on a appris depuis hier, donc cette deuxième vague qui force le gouvernement Legault à nous reconfiner d'une certaine façon. Je pense qu'on est aussi bien d'utiliser le bon mot, là. C'est reconfinement partiel, temporaire, 28 jours. C'est une espèce de double quatorzaine, une double quarantaine en fait qui nous est imposée. En gros, si vous vous posez des questions, puis il y a beaucoup de gens là, qui m'en posent, qui me disent « est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? » On va clarifier tout ça pour vous à nouveau. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bien vous dire que sur 20, pour 28 jours, là, vous vous mettez sur pause. C'est un peu ça le contexte. Ça a été expliqué hier par François Legault, qui avait le cœur gros, qui nous montrait qu'il était vraiment très, très... à côté sur la ligne, là, quand tu dis « on est obligé », on est rendu là, on est rendu encore là, mais on est rendu là. On l'écoute.
À compter de jeudi, tous les bars, casinos, restaurants, les salles à manger des restaurants vont être fermées. Ça veut dire que les restaurants vont pouvoir continuer à faire des livraisons, mais seulement des livraisons. Ça sera la même chose pour les salles de spectacle, les cinémas, les salles de réception, les musées, les bibliothèques.
Bibliothèques, justement, musées. Beaucoup de gens me disent comment ça se fait que c'est fermé alors que les gyms, eux ou elles, restent ouverts. Ces commerces là qui, pour la plupart, restent ouverts. Évidemment, tous les grands magasins d'alimentation, les centres commerciaux, tout ça, ça reste ouvert. Il y a toute l'industrie du spectacle, évidemment, qui est en dessous parce qu'on se demande pourquoi il faut annuler les pièces de théâtre, pourquoi les salles de cinéma sont-elles fermées alors que c'est devenu très réglementé. Évidemment, pourquoi on peut quand même continuer de manifester. Oui, vous allez me dire, à deux mètres et avec masque. J'ai hâte de voir ça, moi, la prochaine manif anti-masque ou en tout cas de gens un peu réfractaires, voir si chacun va respecter le 2 mètres et si chacun va porter son masque. C'est une manif anti-masque, ça le dit. Ils porteront pas vraiment leur masque. Ils vont le porter comme de plus en plus, c'est la mode, c'est-à-dire sur le menton ou en bas du nez. Écoutez, je vais vous demander ce que vous en pensez de tout ça. C'est sûr qu'on va se confirmer. Je veux dire, il faut respecter les directives officielles du gouvernement. Donc, c'est pas du tout de dire qu'on n'obéira pas. Mais je sais, parce que vous me l'écrivez aussi en message privé sur mon Facebook, que, et même à isabelle@985fm.ca, bien, merci de le faire. D'ailleurs, ça me permet de donner le pouls un peu de ce que vous ressentez. Il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, regarde, moi, là, je respecte les mesures depuis le début. Je me lave les mains, je porte mon masque. Voir si je vais plus voir ma famille. » Donc, est-ce que vous avez l'intention quand même de respecter à la lettre, un peu à la lettre, de continuer comme d'habitude? Parce que c'est pour qui ces mesures-là? C'est pour ceux qui refusent encore de se conformer. On va en parler, tiens, nos numéros. Pour vous, 514-790-9850 pour Montréal et pour l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Le docteur Hugo Vien est orthopédiste à l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On lui a parlé la semaine dernière. Il y avait d'ailleurs des craintes là, sur ce qui nous attendait. Bonjour, docteur Vien.
Bonjour, Isabelle.
Est-ce qu'on a ciblé les bons endroits et les bonnes personnes, docteur Vien?
Bien, je suis très heureux là, de la position que le gouvernement a prise hier. Je pense que c'est un élément important, là, la restauration, les rencontres sociales. Je pense sincèrement, pour une expérience que j'ai vécue en allant avant-hier là, dans une grande chaîne de café rapide américaine, là, dans laquelle
qui
il y avait
sort absolument... qui sert deux tasses ou qui a une étoile?
Ouais, c'est ça. Mais qui commence par un grand S, pour pas la nommer.
C'est ça.
Où dans laquelle, en rentrant, là, il y avait aucune façon de se désinfecter les mains, là. J'ai pas trouvé d'alcool. Quand j'ai trouvé la machine à alcool, il y avait plus d'alcool dedans. À ma présentation au gérant pour lui demander comment est-ce qu'on fait pour appliquer les mesures comme citoyen, là, quand on veut participer, et de me faire répondre, ah, ben, c'est parce qu'on n'en reçoit plus. Si on multiplie un petit peu ces exemples-là, puis là, bon, c'est moi, c'est un seul témoignage, là, mais je pense que ça représente quand même assez bien un certain relâchement. Puis je pense ce dont je suis convaincu, là, pas, je suis orthopédiste, mais j'ai quand même fait un bac en bio, puis on a fait pas mal de microbiologie puis de virologie dans mon bac. Puis je suis assez convaincu qu'une des raisons pour lesquelles le Québec Les peuples latins, là, on a vu où ça a frappé plus fort, j'ai l'impression, que dans les pays asiatiques, où je pense qu'il y a notre tendance à moins suivre peut-être, ou en tout cas avoir un petit peu plus de difficulté avec les mesures plus coercitives. Mais je pense aussi qu'il y a dans notre culture une volonté, un désir, puis une propension à parler, à jaser, à se rencontrer. Et je suis assez convaincu que ça, c'est un facteur important de la transmission. On sait que les gouttelettes sont probablement le mode le plus important de transmission. Les aérosols, bon, c'est pas impossible, les gens disent, est-ce que, mais oui, peut-être que, puis un faible pourcentage dans la ventilation, mais c'est certainement pas un facteur important. Là où on se transmet le virus, là, c'est quand on se rencontre au restaurant, qu'on se parle face à face, qu'on positionne sur la table, puis sur le verre, puis l'assiette de notre voisin, puis notre voisin met la main sur son verre et se touche l'œil après. Aujourd'hui, on est rendu que dans un restaurant, on a l'impression que là, on est immunisé contre la transmission. Alors qu'ailleurs, on met en place des mesures absolument incroyables pour casser un virus, mais le modèle dans lequel on avait des rencontres sociales à la maison, au restaurant, on ouvrait grande la porte à la transmission, probablement moins de façon de masse. Ce qu'on voit, c'est des petites éclosions, mais je pense que ça permettait au virus de continuer de se propager, de transmettre, puis de vivre là sous la couverture, là, puis éventuellement ressortir comme on le voit actuellement.
Mais est-ce que c'est pas un peu flou quand même, docteur Vien, les véritables lieux d'éclosion, là, sait-on vraiment où ils se trouvent? Parce que, oui, à part le restaurant de 200 places à Laval, là, qui est d'ailleurs fermé aujourd'hui, là, qui a reçu la visite de la police, qui s'est cassé le nez sur une porte fermée, là, ça a l'air qu'ils ont engagé une entreprise pour essayer de voir comment ils vont pouvoir rouvrir dans des bonnes conditions. Ben là, ça sera pas avant 28 jours, bien sûr, là. Mais c'est là où la police était même allée ce soir-là, samedi, il y a deux semaines, puis tout le monde était outré de voir à quel point les gens faisaient fi, même le propriétaire de l'endroit faisait fi. Dès que les policiers ont eu le dos tourné, les gens se partageaient les bouteilles à même le goulot. Bon, ce genre d'endroit, je comprends là, qu'on se dise, ben regardez, ce genre de restaurant, on est obligé de les fermer parce que ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai tellement parlé, puis mes collègues aussi ont tellement parlé à des restaurateurs qui s'étaient conformés, qui avaient mis des plexiglas, qui avaient mis la visière plus le masque en dessous, plus des mesures, à tel point que les clients disaient même, écoutez, on va quand même au restaurant pour les encourager, mais on s'entend que c'est pas la même expérience, c'est plus tout à fait aussi plaisant. Est-ce que ça n'aurait pas été... J'ai l'impression qu'on pénalise quand même beaucoup de gens pour un petit nombre de réfractaires. J'ai l'impression que ça, cette pensée-là, qui est partagée, je pense, par un grand nombre de Québécois, ça risque de faire en sorte que peut-être que les mesures ne vont pas être aussi bien suivies que le gouvernement le souhaiterait.
Oui, mais en écoutant la conférence de presse du premier ministre ou du ministre et des ministères hier, j'ai grimacé la plupart de l'entrevue ou la plupart de la conférence de presse jusqu'à ce que le gouvernement mentionne la possibilité d'avoir une aide économique pour les restaurateurs. Parce que les restaurateurs sont victimes du créneau d'affaires dans lequel ils sont installés. Et malheureusement, ce créneau-là, qui est la restauration, puis la restauration, je sais, grégaire, là, si on ne va pas au restaurant la plupart du temps manger seul, si les tables des restaurants étaient des tables où on installait une seule personne, je pense qu'il n'y aurait aucun problème à les garder ouvertes. La problématique, c'est que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange entre deux personnes, qui la majorité du temps, quand on va au restaurant, là, sur l'heure du midi, promenez-vous, là, que ce soit, moi, je le vois au quartier du 30, partout à Montréal, dans un resto, quand on rencontre quelqu'un sur l'heure du midi avec qui on dîne, en général, c'est pas quelqu'un de notre famille. Et malheureusement, c'est comme ça que la transmission se fait de personne à personne et ça permet la diffusion. Puis une des problématiques, c'est qu'on est capable d'identifier des lieux d'éclosion parce que la puissance de nos méthodes d'analyse statistique possible pour la santé publique d'identifier des foyers, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'individus qui allument à un endroit particulier. La problématique avec la restauration, c'est que c'est disséminé sur de petits nombres, de petites rencontres multipliées par milliers. Alors, il est impossible de mettre le doigt sur quand est-ce que ça s'est fait, mais on le sait, on le voit. Une des principales raisons, probablement, aujourd'hui, pourquoi on a cette recrudescence-là, c'est parce que c'est à peu près le seul secteur d'activité humaine sur lequel on n'a pas mis un bouchon. Et c'est triste, je suis tout à fait d'accord pour les entrepreneurs, c'est terrible. C'est des gens, la majorité du temps, les restaurateurs, puis probablement les gens de bar aussi, ont mis leur vie dans la construction d'une entreprise. Puis ces gens-là construisent le Québec, créent de la valeur pour le Québec. Ce sont des travailleurs autonomes qui paient des taxes, qui emploient des gens. C'est ça qui fait rouler l'économie. Puis malheureusement, aujourd'hui, c'est encore sur eux. Puis ils ont payé déjà très fort. Puis on risque de continuer à les mettre à terre. Donc, il faut absolument que pour ce secteur d'activité-là, ça coûte cher à tout le monde. Mais je pense que c'est une façon de répartir la lourdeur de l'impact de notre sur notre société.
Mais je comprends plus pour les bars. Ouais, je comprends plus pour les bars, docteur Vien, que pour les restaurants, remarqués où je pense qu'on aurait pu contrôler quand même le nombre de personnes à une table. Dans les bars, et d'ailleurs, il y a une explication intéressante dans le journal ce matin où on parle de la ventilation, puis on dit clairement que, puis il y a eu des études là-dessus, entre autres, qui ont été faites au Royaume-Uni sur l'épidémie de grippe de 2009, puis qui nous en apprennent aujourd'hui pour la COVID-19, où on dit, c'est sûr que quand on optimise vraiment la ventilation, ça peut être une solution, parce qu'un adulte respire environ 12 à 15 fois par minute, on expire environ 10 litres d'air par minute, fait qu'en 2 heures, on a comme expiré 1200 litres d'air. Fait que vous imaginez un bar de 50 personnes pendant 2 heures. Les 50 personnes expirent 60 000 litres d'air. Ça veut dire quoi? C'est quasiment la moitié de l'air total du bar. C'est 40 %, dit-on. Là, je comprends les gouttelettes, puis je comprends que ça devient difficile à contrôler, puis que ça devient un véritable risque. Mais est-ce que ça, c'est pas la même chose dans les gyms, par exemple? Est-ce que là aussi, on expulse encore plus d'air, ou en tout cas, autant que quand on se rapproche de quelqu'un parce que la musique est trop forte, puis qu'on lui parle dans l'oreille ou dans le blanc des yeux, là?
C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos dogmes puis l'interprétation qu'on donne aux données statistiques, aux données scientifiques, là. Ce qu'on sait, c'est que la transmission par gouttelette et par contact, là, vraiment de près, est la principale source de contamination. Oui, dans l'air, c'est certain qu'un virus, là, peut vivre probablement sur une micro-gouttelette ou même lui tout seul flotter dans l'air, mais il va sécher, il va ratatiner puis il deviendra plus capable d'infecter après très, très peu de temps, là. Donc, c'est pas une mesure, c'est pas un mode de transmission qui est important. Puis quand on veut contrôler une épidémie comme ça, faut taper sur les modes de transmission les plus importants, les détails ou les quelques cas qui vont être dus à une mauvaise ventilation. Mais qu'est-ce qu'Isabelle est particulier dans un bar? C'est que pour parler à quelqu'un, on doit se crier dans les oreilles, on doit se parler de tout près, puis là, on se positionne d'en face, puis on positionne sur le verre de notre voisin. Au restaurant, la même chose. C'est qu'au restaurant, c'est certain, quand on est assis avec quelqu'un, je l'ai dit à plusieurs reprises à des gens autour de moi, vous voyez, ce midi, on dîne ensemble, si j'ai la COVID, tu quittes et c'est certain que tu l'as attrapé. C'est impossible, à moins de mettre des plexiglas un en face de l'autre, là, séparer les tables, ce qui n'est pas le cas dans nos mesures actuelles.
Ah, dites-moi, docteur Vien, ce que vous venez de dire, c'est intéressant, là. Quelqu'un, mettons là, qu'on est sans symptômes, asymptomatique. On va manger avec un collègue de travail. Mettons qu'on n'est pas en télétravail cette journée-là. On va manger. C'est automatique que l'un asymptomatique va le donner à l'autre?
Ben, il faut asymptomatique, ça dépend probablement. Puis là encore, là, je suis pas spécialiste, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour donner le virus, il faut l'excréter. Donc, il faut que le virus se soit reproduit assez dans nos muqueuses pour que lorsqu'on parle, qu'on tousse, il y ait du virus qui soit libéré, là, qui éclos de nos cellules quand il se reproduit pour devenir distribuable dans l'air.
Mais c'est pas automatique, là. C'est pas gelé, je te parle, tu l'as.
Non. Il y a des gens qui vont, ce qu'on sait, c'est que la corrélation entre l'excrétion du virus, notre capacité, puis la façon dont on l'envoie dans l'air ou dans l'environnement autour de nous, et les symptômes qu'on ressent ou qu'on a, il n'y a pas une corrélation très facile à faire. Il y a des gens qui vont être asymptomatiques en portant la maladie. Probablement que quelqu'un qui est très malade, qui tousse énormément, devient un super propagateur parce qu'on s'attend à ce que la quantité de virus qu'il excrète, l'excrétion du virus, soit immense. Mais de très près comme ça, puis c'est ça qui est dangereux, vous savez, un virus qui tue ses autres, l'Ebola par contre. Par exemple, pourquoi l'Ebola n'a pas fait le tour de la planète comme le SRAS ou comme le virus actuel, le COVID-19? C'est parce que le COVID-19 ne tue pas son hôte. Un virus en biologie qui tue son hôte n'a pas le temps de se transmettre dans la population. Alors, les meilleurs virus pour faire les dommages qu'on a aujourd'hui, puis la super pandémie, c'est le COVID-19 parce qu'il va rendre des gens malades, oui, mais sans les tuer, ce qui permet au virus de se transmettre longtemps parce qu'on n'est pas capable de couper la chaîne de transmission. Les gens vont être bien porteurs, vont disséminer comme des bons ambassadeurs de la propagation du virus avant d'en être malade et d'en mourir ou d'en être assez malade pour arrêter de se promener dans la population.
C'est un bon virus de pandémie. C'est de développer une certaine immunité par rapport à ce virus-là, parce que s'il est là pour rester, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. En développant notre propre immunité. On reviendra d'ailleurs sur ces éléments là, d'immunité, puis de va-t-on être obligé de vivre avec la COVID-19 pendant un petit bout. Bien sûr, on va s'arrêter ici. Le docteur Vien reste avec nous. Je vais vous poser la question, d'après vous, est-ce qu'on a ciblé les bons endroits? Est-ce qu'on s'en prend aux bonnes personnes dans la mesure où, là, on dit à 5 millions de Québécois en zone rouge, restez chez vous, bougez plus, invitez plus vos amis pendant 28 jours. C'est une sorte de quarantaine double qu'on nous impose pour le bien commun. Alors, dites-moi si vous allez la respecter et surtout si, d'après vous, on a eu raison de fermer certains endroits au détriment des autres. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Est-ce qu'on a ciblé les bons endroits, les bonnes personnes pour essayer de reprendre le dessus sur la COVID-19? On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Vous en pensez quoi, vous, Sylvain, de tout ça?
Ah, moi, j'en ai beaucoup sur le cœur en matin. Moi, je suis représentant sur la route, puis service essentiel, comme on peut dire. Je peux pas dire pour qui je travaille, mais dans le papier, OK? Mm-hmm. Puis j'en ai tellement vu, là, je peux pas croire. Oui, les bars, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça, mais les restaurants, j'ai un beau-frère, moi, qui a deux cafés en ce moment, là. Puis ils respectent les normes, ça n'a pas de bon sens, puis on va fermer encore la même place. Les fêtes familiales, c'est plein de monde. Les policiers rentrent pas, donnent pas de tickets. Les bars, la même chose. Je trouve qu'on n'a pas ciblé les bonnes choses. Les fêtes familiales, les policiers, pourquoi qu'ils rentrent pas? Ils ont bien trop peur. Mais là, en ce moment, je suis sur le bord de l'autoroute, puis ils étaient en train de donner un ticket à des autos. Mais ça, il n'y a pas de problème. Mais les problèmes sont pas là. Le problème, c'est dans les maisons. Les écoles, devant une école, hier, je suis passé, c'est l'enfer, comment que le monde se colle, ils ont pas de masque, ça rentre dans des restaurants, pas de masque. Les magasins, la même chose, dans les magasins, il y a même plus de Purell, ils en mettent pas, le monde se lave pas les mains. Après, on se demande pourquoi qu'on ferme. Oui, on ferme, on a payé pour, puis on paye encore pour, puis c'est notre faute. Mais les restaurants, encore une fois, il y a beaucoup de restaurants qui font attention, ils ont à peine de la misère à arriver. On va fermer ces restaurants-là encore une fois. Il n'y a pas de monde dans les restaurants. Laissez-les ouverts. C'est la seule place que le monde peut faire pour se détendre. Mais je peux comprendre un bar. Moi, je peux pas croire qu'on va aller dans un bar quand c'est le temps d'une COVID. C'est pas vrai. Ça, c'est correct, un bar. Mais les fêtes familiales, pourquoi que les policiers ne rentrent pas là pour donner des tickets, je le comprends pas. Le bar qu'il y a eu la fois, il y a eu le karaoké. Il n'y a pas eu de tickets. Personne n'a eu. Ensuite, l'autre bar, que le restaurant qui a eu une fête, ils ont rentré, ils ont regardé, ils n'ont pas donné d'étiquette. Mais ça, ils veulent pas le donner. C'est là qu'ils devraient frapper.
C'est pas qu'ils veulent pas les policiers, là. La décharge des policiers, ils voudraient sans doute appliquer des mesures plus strictes, mais malheureusement, Sylvain, ils disent que ils n'ont pas les coups des franches, ils n'ont pas les possibilités, le décret du gouvernement.
Le gouvernement pour le donner, qui donne le droit, même ils donneraient le droit de rentrer dans les maisons. Il y a des fêtes. Moi, je fais 6 mois, je travaille, j'ai jamais rien pogné parce que je fais attention, je lave mes mains, je mets mon masque. Ouais. On va pas dans les bars, je joue au golf des fins de semaine avec ma femme. Ici, tout, ma vie se limite à ça. Pourquoi que le monde ne donne pas le droit qu'ils rentrent dans ma maison? Ils vont voir qu'on n'a pas 10 personnes. Mm-hmm. Mais ceux qui en ont, qui rentrent, moi, je le donnerais le droit. Le problème est là en ce moment. C'est les restaurants, ils n'ont pas de problème. Les bars, les fêtes familiales, tous ceux qui ne respectent pas, les illuminés qui sont dans le centre-ville, qui font le tam-tam, qui n'ont même pas de masque.
C'est qu'on essaye encore, Sylvain, de convaincre au lieu de contraindre. Et c'est peut-être là, je sens beaucoup votre frustration. Ouais. Et vous dites,
on est convaincu. Moi, je suis convaincu. Puis moi, comme je te dirais, 99% du monde comme moi sont convaincus que ça existe. Puis il faut faire attention. Mais il y a des illuminés encore qui ne comprennent pas. C'est à eux autres qu'il faut rentrer dedans. C'est pas nous autres qui est le problème, là. Je regarde le monde des magasins, ils font attention. Il y a encore du monde, oui, qui se lave pas les mains. Tu leur dis, m'excuse, j'ai passé à côté. Mais il y en a qui font exprès parce qu'ils veulent pas se laver les mains. Pour eux autres, ça existe pas. Ouais. C'est eux autres qu'il faut frapper. C'est pas les restaurants n'ont rien à voir avec ça.
Merci beaucoup, Sylvain. Merci bien. On va aller parler à Marc, qui a été très longtemps, plus de 30 ans, préposé aux bénéficiaires. Bonjour, Marc.
Allô, Isabelle.
On vous écoute là-dessus.
Moi, si j'étais complotiste ce matin, là, je pense que je jouirais. C'est tellement bizarre que ce qu'ils ont annoncé hier. La semaine dernière, peut-être 10 fois plutôt qu'une, Dubé, Legault, Pierre-Houda, ils n'ont pas cessé de nous dire que les bars, les restaurants n'étaient pas des endroits où le virus se dispersait. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine? Ils ont fermé les bars, les salles de spectacle, les restaurants. Ils laissent les lieux de culte ouverts. Ils laissent les gyms ouverts. Je regrette, là, mais je comprends pas. C'est quoi la dose? Et puis, pas rien que ça, regarde aussi, je veux pas faire une... Si on faisait une étude ethnocentrique là, des coins problématiques à Montréal, il y a beaucoup de ces coins-là que c'est des travailleurs de la santé. Qui demeurent là et puis qui vont rapporter le virus dans les hôpitaux. Ça, c'est des choses importantes, les réunions de famille, les lieux de culte, il faut fermer ça, sinon les restaurants, ça sert à rien de fermer ça, voyons donc, c'est quoi, joke, là? Ils font juste faire sauter les plombs aux gens, à la population va se braquer, puis ils vont de moins en moins écouter, puis ça va être, c'est pas très brillant comme décision, je trouve, hier.
Merci beaucoup, Marc Raymond, votre opinion sur les nouvelles règles du gouvernement?
Ben, ils n'ont pas visé les bonnes cibles, puis je suis parfaitement d'accord avec le monsieur qui parle des restaurants. Je suis allé au restaurant à quelques reprises, et comme vous d'ailleurs le dites, ils respectent toutes les directives de mesures sanitaires à la perfection, et quand on va manger en couple, par exemple, ben c'est l'homme et la femme, sont le couple et un vis-à-vis de l'autre, et puis où le docteur vient, qui a raison théoriquement, mais en pratique, si tu parles normalement, il n'y a pas assez, il n'y a pas de gouttelettes qui vont être. Les gouttelettes, ça prend une telle quantité, puis ça prend une vélocité, puis il faut que ça pénètre. Si tu parles normalement, puis c'est à 3-4 pieds de la personne, il n'y a pas de danger. J'en ai fait beaucoup de restaurants. Il faut dire que je suis peut-être plus âgé, mais les gens de 55 ans et plus respectent beaucoup. Tant qu'au magasin, ben que ce soit au Canadien Tire ou d'autres, tous les gens, la majorité des gens, la grande majorité, portent des masques. Maintenant, j'ai été ébahi quand M. Legault a dit qu'il va permettre des manifestations. Je suis tombé en bas de ma chaise.
À deux mètres et avec masque ça, obligatoire. Là. Oui, ça et nous fait puis, sourire. Hein?
Et puis, ils ferment les restaurants, je pourrais nommer des noms. Là. Puis moi, j'ai été aussi en des réunions d'affaires, mais les restaurants sont vides. Alors, entre les tables, il n'y a pas d'espace. Puis la personne avec qui j'étais, je la connaissais, on était confinés. N'oublie pas que le Québec a été confiné depuis le mois de mars. Alors, et les gens font très, très attention pour la grande majorité. Maintenant, le point le plus important, c'est que depuis le tout début, le gouvernement a soufflé le chaud et le froid en mettant pas le masque obligatoire. Pourquoi il n'y a pas une loi? C'est pas une loi d'urgence, une espèce de loi des mesures de guerre. Parce qu'en fait, on est en guerre. Là. C'est un ennemi incroyable. Puis malheureusement,
oui, la loi des mesures de guerre, par exemple, avant de l'invoquer, c'est assez complexe. Ben, c'est l'armée complexe, qui débarque dans les rues. Nous, on est un peu marqués. On est comme traumatisés au Québec par cette loi-là. Je vous avoue vraiment.
Oui, j'ai été traumatisé, mais c'est pas ça que je n'avais pas la loi des mesures de guerre. Une loi coercitive. Pour obliger les jeunes à partir de 7 ans, j'ai ma petite fille, moi, qui porte le masque, elle a 7 ans, mais plusieurs de mes nièces. Si c'était obligatoire pour tout le monde avec des mesures excessivement sévères.
Pour circonscrire tout ça rapidement. Hein. Raymond, merci beaucoup. Je dois absolument conclure avec le docteur Hugo Vien. On va continuer sur le sujet, mais le docteur Vien doit retourner à ses patients. Docteur Hugo Vien, vous entendez, là, Sylvain, Marc Raymond, on sent beaucoup la frustration, l'incompréhension, puis on a l'impression effectivement, ce qui ressort du discours, c'est que les gens ont l'impression qu'on a mal ciblé les endroits problématiques.
Il est très difficile de traduire un vecteur d'infection, une maladie, dans des applications puis des comportements courants dans la vie. Mais ce qu'il faut comprendre, ce virus-là, là, on le transmet en parlant. Isabelle, si on est devant, côté de quelqu'un, à 30 cm de quelqu'un, qu'on se colle dessus, mais qu'on ne lui parle pas, on ne peut pas transmettre le virus. Alors, la façon dont nous transmettons ce virus-là, c'est en parlant à quelqu'un d'autre près de nous. Et à l'extérieur,
donc au cinéma, admettons, le docteur vient, au cinéma, théâtre, là, on aurait pu continuer d'y aller.
Il y a très peu de danger, mais si on se met la main au visage et qu'on touche l'appui-bras en se levant, bien, la prochaine personne qui met la main sur l'appui-bras, donc il y a un transfert sur les surfaces. Donc, se toucher au visage, mais le masque, une des utilités principales, c'est de nous empêcher d'aller nous toucher la face. On développe inconsciemment, avec le masque dans le visage, l'habitude de ne pas aller se toucher le visage. Alors, le virus sort de notre bouche principalement. Pour le rhume habituel, là, c'est les sécrétions nasales. C'est quand on morve du nez. Combien de fois on le fait tous, là? On a une goutte qui nous pend au bout du nez, là. On se passe le doigt, puis là, on en a plein les mains, on met ça sur les poignées de porte. C'est comme ça que le virus se transmet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a plein les écoles aujourd'hui, avec le peu de virus qu'on a, mais que la COVID, quand même, n'a pas fait une grande percée dans les écoles. La problématique, la transmission du virus, c'est quand on a une table devant nous, qu'on parle à des gens pendant des heures. C'est pas vrai. Le positionnage, c'est biologiquement, là, vous allez faire une étude, vous allez passer des cultures sur la table devant nous. On a complètement immaculé la table devant nous. devant notre la personne avec qui on partage.
OK,
la
mais les bibliothèques, les bibliothèques, les gens parlent beaucoup des bibliothèques, surtout les personnes âgées, puis les jeunes aussi.
Ben, en théorie, dans une bibliothèque, on n'est pas supposé de parler, en tout cas. Là.
Bon, voilà. Puis, donc, pourquoi sont-elles fermées, d'après vous?
Ben, je pense qu'il y a un lobby qui est important. On a un gouvernement quand même qui est pro-entrepreneurship. Il faut comprendre qu'on mitigue le coût économique par rapport à la transmission. Un, le volume de personnes dans les bibliothèques n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les bars ou les restaurants. Deuxièmement, dans une bibliothèque, évidemment, il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas personne qui a mis, comme dans un restaurant ou dans un gym, sa vie à développer une entreprise puis à la voir mourir avec toutes les économies qu'on y a mis. Donc, on essaie de protéger quand même ces gens-là. Et ça, encore une fois, c'est la répartition sociale du coût que cette maladie-là a ça sur l'ensemble des individus.
Merci, Dr. Hugo Vien, orthopédiste à l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On s'arrête ici. Vos commentaires, on poursuit bien sûr avec vous après la pause. Je vous demande si vous estimez qu'on a ciblé les bons endroits, les bons secteurs de l'économie du Québec. Je vous rappelle d'ailleurs que les écoles continuent d'être ouvertes d'ailleurs. Et le premier ministre François Legault disait c'est important là, que nos jeunes continuent d'aller à l'école. Là, beaucoup de gens me disent, ben voyons donc, mon jeune va à l'école, mais je peux pas recevoir la grand-mère, mettons, ou... incompréhension, un peu, beaucoup, que je lis chez vous. 514-790-9850, 1-866-790-9850 pour nous joindre de l'extérieur. On aura également un consultant en santé, sécurité au travail qui va nous parler des chantiers. Ça doit être quelque chose, les chantiers de construction aussi en ce moment. À tout de suite, tout le monde. Pitié de l'homme qui a peur. Prenez-lui la main quand il pleure. Ben, le pouls du Québec en ce moment, selon les gens qui m'écrivent et qui me téléphonent également, c'est beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration, mais ça, ça fait déjà quelques temps qu'on commence à être frustré. Puis je sens qu'il y a une espèce de clivage, là, et ceux qui s'en viennent plus fâchés, ben, c'est ceux qui respectent les règles depuis les derniers mois. Et on les comprend, là, 5 millions de Québécois qui vont devoir vivre en zone rouge avec une double quarantaine forcée pendant 28 jours où on vous dit ne rencontrez plus aucune personne de votre famille, pas de visite. Là. Si vous êtes deux parents, là, un couple, vous ne pourrez pas recevoir à partir de jeudi, en fait mercredi soir minuit, vous ne pourrez pas recevoir vos enfants, ne serait-ce que votre garçon ou votre fille à souper. Ça, ça se peut pas. En même temps, les manifestants anti-masque ou anti-tout vont pouvoir aller manifester dehors à condition, bien sûr, qu'ils soient à 2 mètres. Ça, c'est important. À 2 mètres et avec le masque. Je sais pas si ça peut être respecté, sincèrement, ce genre de contraintes-là. Dans une manif, le propre de la manif, c'est de manifester puis d'être collé, de faire un effet de masse. Alors, ça me paraît un peu difficile de faire respecter ça. On a Daniel qui est avec nous. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, est-ce que vous trouvez qu'on a ciblé les bons endroits là, pour justement faire en sorte de freiner l'épidémie de COVID?
Je suis attristé de voir qu'on est en train de briser la société québécoise. Là, on focus juste sur le Québec. Là. Mm-hmm. Je suis camionneur longue distance. Je suis bilingue. Et puis, j'ai la possibilité, à cause que je suis camionneur, d'entendre les radios nationale canadienne, mm-hmm. américaine et même en Europe. La BBC, on sait que ça l'est. On peut... Et qu'on essaye de m'expliquer, Taïwan, 23 millions d'habitants, jamais de confinement, 10 décès, 10 là, sur 23 millions. Il y a 9 États aux États-Unis, entre autres le Dakota du Sud, aucun confinement. Mm-hmm. Pas de problème. C'est que il y a quelque chose en arrière de ça que là, je me dis, attends une minute, là, comment ça se fait qu'il y a plein de médecins, j'écoutais dernièrement, en face de la Maison-Blanche, là, un groupe de médecins, là, pas des protestateurs là, ou des émeutiers, là, qui disaient que oui, le virus est là, mais c'est pas ce qu'on nous fait croire. Moi, j'ai pas encore passé par-dessus 10 cadavres. Si on parlait de la grippe espagnole, où il y a 50 millions d'habitants qui sont morts, mm-hmm. là, c'est sûr que dans ma famille, là, il y en a qui seraient tombés. Mais je fais le tour de la planète, puis je vais vous dire, moi, ce que je crains ici au Québec, là, c'est ceux qui sont pour les masques. Moi, je porte un masque pour jouer la game. J'y crois pas. C'est juste que je veux pas recevoir une plaque en arrière de la tête. Mm-hmm. Je joue la game, mais j'y crois pas au masque. Puis, de toute façon, c'est même pas un masque que je porte, c'est un couvre-visage. Mm-hmm. Je veux respirer. C'est que tu as des tests qui sont faits, là, que dans un environnement, là, dans votre studio, là, si vous faites un test là, avec des machines professionnelles, on a 20% environ. Quand on est à 20 ou 21% d'oxygène, c'est un bon taux. Mettez-vous un objet devant le visage et faites le même test, vous allez tomber à 17,4. C'est de l'air vicié. Ça, tu dois sortir de là. On est en train de tuer notre monde. Puis ça, je trouve ça criminel que Dr. Arruda empêche des enfants.
Daniel, vous êtes toujours là. Je pense que oui. Ça vous affecte beaucoup. Hein. Je pense que je comprends.
Non, excusez. Non, mais d'aller voir leurs parents et puis qu'ils vont mourir. Ces enfants-là vont mourir seuls. Mm. Il y a plus. On utilise un virus. On ferme-tu l'économie pour une grippe annuelle qui tue plus présentement. Savez-vous qu'aux États-Unis, le CDC, le Center of Disease Control, a revisé ces chiffres. On blâme bien M. Trump. On va parler de M. Trump.
Si vous me permettez, je comprends Trump. Il y a un débat ce soir, puis on en parlera peut-être demain si ça nous le tente, là. Mais ce soir, il y a d'ailleurs le débat Trump-Biden que je vous encourage tous à regarder. Daniel, merci, puis j'entends bien là, votre angoisse puis votre incompréhension par rapport à tout ça. Puis oui, tout à l'heure, quelqu'un disait que c'est sans doute les complotistes qui doivent jouir puis avoir beaucoup de plaisir en ce moment depuis hier soir avec cette nouvelle règle de confinement, finalement, pendant 28 jours. C'est sûr que, bon, il y a tellement d'informations ici et là. Tout le monde se sent un peu pris au dépourvu. Allons rejoindre Steve Tremblay, qui est consultant en santé et sécurité au travail. Bonjour, Steve.
Bonjour, Isabelle.
Daniel nous parlait justement là, de l'air ambiant, l'air vicié, tout ça. Bon,
je vais vous remettre les pendules à l'heure, Isabelle. Ouais. Là. Mm-hmm. Le taux d'oxygène normal dans une pièce, là, premièrement, c'est pas de l'oxygène à 100%. Là. Il y a un certain pourcentage d'oxygène qu'on respire.
Ouais.
C'est de l'air, c'est ça. C'est 19,5. Un, puis pas parce que vous portez un masque ou que vous respirez le même air dans une pièce toute la journée que l'air devient vicié. À moi, que ce soit chez vous ou dans un établissement ou à votre bureau, là, l'air, elle est respirable. Il n'y a pas de problème avec ou sans masque. Là, on respire, puis tout le monde vit. Il n'y a pas personne qui est mort parce qu'il porte un masque. Là, hein, faut pas virer fou avec ça. Mm-hmm. L'autre affaire. Monsieur, il n'a pas vu de mort direct dans sa famille. Donc, pour lui, il dit que, bon, c'est peut-être pas vrai. Ben là, hier soir, là, on a franchi dans le monde entier 1 million de morts. Mm-hmm. Ça a tué le COVID-19 plus que les gens du sida, la malaria et d'autres maladies réunies ensemble que seul le COVID lui-même en a tué. Donc, c'est à prendre au sérieux. On n'est plus là-dedans. Là, ils sont rendus en septembre, octobre. Si on n'a pas compris ça, on a...
OK, vous dites qu'on n'est plus rendu à débattre de...
Non. Bon, l'autre affaire. Quand on s'est parlé la dernière fois, Isabelle, on s'est parlé du code de couleur de Christian Dubé qui avait annoncé. Je vous ai bien dit cette journée-là, Isabelle, c'est un beau plan de communication, ce n'est pas un plan de prévention. Je vous avais dit, observez bien ce qui va se passer. Quand on va annoncer la couleur jaune, orange et rouge, il va être trop tard, on va être les deux pieds dedans.
Vous avez raison.
Ce n'est pas la prévention, puis c'est exactement ça qui arrive. Ce qui s'est produit hier, ne vous y méprenez pas, là, on est en train d'assister à un reconfinement général. Mm-hmm. Au même titre qu'on a déconfiné graduellement les différents secteurs de l'économie, à l'inverse, au lieu de faire comme en mars, on s'est fait faire, là, bang, d'un coup sec, tout le monde est confiné, cette fois-ci, ils vont secteur par secteur, mais de façon graduelle au lieu d'y aller drastiquement. Mais faites attention, là, c'est pas rien que pour 28 jours, puis c'est pas rien que les restaurants et les bars qui vont être fermés. Avec ce qui s'en vient, très fort, ce sera pas juste ces deux secteurs-là qui vont être fermés. Là.
Vous pensez là, que tout va être reconfiné?
Je pense pas. Je suis certain qu'un jour ou l'autre, d'ici la fin octobre, on va devoir fermer les écoles. Parce que là, ils ont bien beau nous dire, Isabelle, je le sais, je suis sur le terrain, je parle avec des gens, même de la santé publique, là. On a bien beau dire qu'il n'y en a pas de problème dans les écoles, c'est pas vrai. Il y a des éclosions partout, puis c'est pas rien qu'une école avec un cas, là. C'est 15, 20, 30 cas par établissement, puis il y a 24 établissements qui sont complètement fermés à cause des éclosions majeures. Puis ils ont des dépistages massifs dans ces établissements-là.
Steve, ce matin, je lisais des courriels là, de gens là, qui travaillent dans le milieu scolaire, des profs, des enseignants ou des concierges qui me disent qu'il y a certaines classes, là, puis je dirais pas dans quelles écoles, tout ça pour l'instant, parce que je n'ai pas été en mesure de vérifier ces informations, mais je vous dis là, ce que je lis, là, ce qu'on me rapporte, c'est qu'il y a des classes où, des fois, il y a 4 élèves. puis que l'enseignant se dit, je serais pas capable de faire, au-delà là, c'est le programme. L'enseignant dit, comment voulez-vous que je puisse considérer seulement 4 étudiants sur 25, mettons, ou 28? Je suis pas capable de suivre le programme, là. Là, il y a des rumeurs qui courent un peu, d'ailleurs, au cégep, à l'université, comme quoi, éventuellement, ils vont même pas donner des notes. Ça va être juste échec ou réussite.
J'en ai une, moi, Isabelle. Ouais. L'université McGill qui dit qu'il y a rien que 4 cas, là. Parlant des étudiants, là, ils sont au moins 60 qui l'ont là-bas, là. Puis l'université en annonce seulement 4. On n'a même pas les vraies affaires, là. Mm. Bon. Ça, c'est une chose. Si on avait voulu vraiment garder les écoles ouvertes, Isabelle, là, dès le mois de mai, là, on aurait mis en place tous les moyens pour que la distance physique de 2 mètres soit respectée, le port du masque, puis tous les moyens pour garder l'école le plus longtemps possible.
Mais c'est quoi ces moyens-là, Steve? On a dit, on va faire des décrets, on va donner des moyens à la police, mais en même temps, il n'y a pas plus de policiers. Les policiers,
non, les moyens, Isabelle, les moyens, là, c'est d'avoir l'espace dans les classes. Si on n'a pas assez d'espace dans les écoles, il y a plein de bâtiments qui sont vides, là. Mm-hmm. Où est-ce qu'on aurait pu... première chose. Deuxième chose, école à la maison, là, parle en ligne, en séparant les groupes pour éviter d'être à 100% embarquer les uns sur les autres dans les classes. Il y en avait plein de solutions, ça n'a pas été fait.
Ouais.
Puis qu'ils nous disent pas qu'ils n'auraient pas pu faire ça, là. Il y avait 6 mois pour le faire. Ils se sont réveillés au mois d'août, c'était pas fait. Vous allez comprendre, mon ton, Isabelle, est un petit peu choqué, là. Depuis le mois de janvier qu'on travaille sur le COVID-19 avec des hôpitaux, que je suis au courant de ce qui s'en vient, des mesures qu'on applique, et je ne comprends pas que M. Arruda, j'ai rien contre lui en passant, soit encore le porteur de ballon. Vous savez, les chantiers de construction, Isabelle, les cônes oranges, là, quand on en voit trop, ils finissent qu'on les voit plus. Hein? On n'en tient plus compte. Ben, depuis le début, Arruda, en avril, là, le 24 avril, on disait en conférence de presse aux gens, restez chez vous, c'est une question de vie ou de mort.
Et là, finalement, on dit la même chose. Tout à fait. La même chose.
Attention, Isabelle.
Ouais.
2 semaines après, le même docteur Arruda disait à la population, ben là, mes amis, là, arrêtez d'avoir peur, il faut vous déprogrammer, là. Voyons donc, c'est pas épeurant, le COVID, là. Et aujourd'hui, on retape sur la tête de la population en disant que ce sont peut-être trop déprogrammés puis qu'ils n'ont pas écouté les règles. Pourtant, j'ai vu des policiers dans des rassemblements qui n'y avait aucune intervention, que ce soit dans les maisons privées, dans des bars, dans des restaurants, dans des marinas, il s'est rien passé. Dès cet été, on aurait dû appliquer les règles à la lettre, les faire respecter, puis de faire de la pédagogie. La population, c'est pas des caves. Si on leur explique les choses, même si c'est tannant d'entendre, aurait fallu continuer de faire ça pour préparer la rentrée. Mais là, on se réveille, tout d'un coup, on a une éclosion, puis gardez, mesdames et messieurs, on est pognés à faire ça. Là.
Steve Tremblay, merci beaucoup. Gardez-en pour demain. On se reparle demain.
Avec plaisir, Isabelle.
Steve Tremblay, consultant en santé et sécurité au travail, pose vos commentaires. Je sais que vous êtes très pompé, là. C'est sûr, on vous donne la parole encore après ceci. Michel, bonjour. Est-ce que d'après vous, on a ciblé les bons endroits, les bonnes personnes pour essayer de freiner l'épidémie, là?
Oui, bonjour Isabelle. Je pense que depuis le début, d'abord, je ne voudrais pas avoir le travail de M. Legault. Là. Je pense qu'il prend les décisions comme il peut prendre, avec les moyens qu'il a. Mais je pense que hier, moi j'ai toujours très bien respecté. Là, on a une famille de 6 ici, puis on jongle avec ça.
Mm-hmm.
Puis c'est correct. Mais je pense que hier, je comprends pas. Moi, je joue au hockey une fois par semaine. Je ne sais pas pourquoi les ligues d'adultes n'ont pas arrêté ça temporairement. Mm-hmm. Je veux pas que ça ferme. Là. Je veux pas apprendre. Je veux pas la perdre, ma ligue de hockey. Mais pourquoi que ça n'a pas été touché? C'est difficile à comprendre. Moi, je vais au gym. Pourquoi que le gym n'est pas fermé? Encore là, je ne veux pas que ça ferme, mais s'il faut... Il y a des choses, on dirait qu'on a échappé hier. Là.
Si on ferme les restaurants, vous dites pourquoi pas fermer mon gym, dans le fond? Vous cherchez un peu la logique, là, c'est ça?
Je ne sais pas. Là, moi, j'ai été au restaurant la semaine passée. Ça fonctionne bien. Il y a moins de monde. C'est correct. C'est très discipliné. Mais un gym, puis jouer au hockey, est-ce que c'est nécessaire pour le moment? Pas sûr. Ça aurait dû être ramassé, ça, hier.
Merci beaucoup, Michel. D'ailleurs, j'en profite pour dire, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire, « Hey, ce soir, on a tous réservé au resto, puis après ça, on s'en va vers un film. » C'est comme à partir de jeudi, là, c'est une nouvelle loi qui arrive. Fait que là, avant, on va vraiment en profiter. Là. Je sais pas, là, c'est comme pas ça le concept qu'il faudrait appliquer. On a Hugo qui est avec nous. Bonjour, Hugo.
Oui, bonjour, Mme Maréchal, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Bien, le point que moi je veux amener, c'est que, tu sais, il y a tellement été des choses qui ont été dites qu'on ne sait plus où placer.
Oui.
Tu sais, Puis tu sais, là, il faut arrêter, là, je pense, l'histoire de guerre de médias, puis de complotisme, puis d'anti-masque. Tu sais, il faut arrêter ça parce que c'est ça qui dirige ouais. tout.
Mais vous, là, Hugo, vous allez vous conformer?
Bien, depuis le début, ma chère. Tu sais, je veux dire, je sais qu'il y en a qui le font pas. Mais on est 8,5 millions. Mm. Est-ce que c'est logique de penser, de dire qu'on va gérer 8,5 millions de personnes?
Ça serait bien non, si tout le monde pouvait se gérer soi-même. Là. Merci beaucoup, Hugo. On aura l'occasion d'y revenir, c'est sûr. D'ailleurs, tout de suite après les nouvelles, on va parler de nos enfants. On a parlé un peu des écoles. On va y revenir aussi. Mais je veux surtout vous demander comment vont vos enfants. Il y a des chiffres et des situations assez incroyables qui sortent ces jours-ci. Donc, je vais prendre le pouls de nos familles tout de suite après les nouvelles. Restez à l'écoute, tout le monde.